beer barrel polka.
Ils peuvent augmenter le capital, vendre la SNCF au privé. Le privé, il n'est pas là pour faire de la sécurité, il est là pour faire du pognon. La sécurité, ça passe après. Un service public, on ne parle pas d'argent. L'école est gratuite, c'est un service public. L'hôpital est gratuit, c'est un service public. On n'a pas à parler d'argent. C'est payé par nos impôts. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Le terreau du fascisme, du nazisme, ça a tout le temps été la précarité, la misère. Ce système capitaliste, il nous y conduit tout droit, quoi. Et c'est pour ça que je dis aux cheminots en premier, puisque c'est là où je bosse, de rien lâcher. Parce que si on lâche là, ce qui risque de se dérouler risque d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave qu'une réforme de la SNCF, de l'hôpital ou de la Sécu.
Salut les amis, vous le savez, les médias dominants nous en parlent beaucoup de ces planqués de cheminots feignants qui, pour défendre d'odieux privilèges, prennent en otage les gens qui, eux, essayent d'aller au travail. Aujourd'hui, spéciale grève à la SNCF avec en deuxième partie d'émission notre copain Cédric, prof d'histoire géo qui a choisi un article du Monde diplomatique intitulé « Il paraît que les petites lignes de chemin de fer coûtent trop cher ». Encore un lieu commun pour abrutis, comme on va le voir tout à l'heure. Les médias nous parlent des cheminots, mais les cheminots, eux, on ne les entend jamais s'exprimer. Alors maintenant, parole de cheminot avec Dom, membre du syndicat Sudrail. Salut Dom.
Bonjour.
Je dis Dom, hein, je dis pas Dominique Thébault de Sudrail.
Bon, vu qu'on se connaît, on va continuer de s'appeler comme ça, JBD et Dom.
Je pourrais même dire bonjour camarade, puisque tu es à Sudrail. Moi, j'ai monté une section Sud animateur de radio associative viré de Radio France, où on est un. Je te tutoie, puisque des manifs, derrière l'étendard de Sud Solidaire, on a eu, hélas, l'occasion d'en faire quelques-unes. C'est quoi ton boulot, toi ?
Alors moi, je conduis les trains, les TER et les trains Corail. C'est la région, notre donneur d'ordre pour les TER. Donc les petites lignes, hein, Loches, Chinon, Nevers, sur toute la région, même au-delà. On va jusqu'à Dijon, Lyon, Nantes, Poitiers aussi. Donc en gros, c'est ça, oui.
Tu rentres chez toi le soir quand t'as fini de bosser ou ça t'arrive de dormir dans d'autres villes ?
Ah bah, ça m'arrive en moyenne 2 fois par semaine de dormir en dehors de chez moi, quoi. Ce qu'on appelle les découchés ou les, en termes techniques, les RHR, repos hors résidence.
Ces derniers temps, comme régulièrement à chaque fois qu'il y a grève, on entend beaucoup parler des cheminots, mais finalement, on n'entend jamais les cheminots. Alors par contre, sur France Intox, par exemple, mais je ne vais pas particulièrement leur jeter la pierre, parce que BFM ou Europe 1 dira exactement la même chose, on entend par contre sempiternellement des micro-trottoirs de ces pauvres clients, hein, parce que maintenant, nous, les gens qui prenons le train, on n'est plus des usagers, on est des clients. On entend les témoignages de ces pauvres clients pris en otage, qu'on empêche de travailler, qu'on empêche de partir en vacances pour que quelques privilégiés qui touchent des primes de charbon à l'heure du TGV, ah oui, si, si, le coût de la prime de charbon, on l'entend encore, odieux privilégiés, vous vous battez non pas pour le service public, mais pour un privilégié, ça se bat pour quoi ? Pour ses privilèges, bien sûr. Tiens, tu vas me sortir ta fiche de paye d'abord, elle est où la prime de charbon ?
Enfin, le matraquage médiatique, on a l'habitude, on a les preneurs d'otages, il y a même Eric Woerth qui nous avait traité carrément de talibans. On a un peu l'habitude. Là, au début de la période de grève, ils essayaient de nous monter la population contre nous en disant « Regardez leur statut, ils ne payent pas le train, etc. » Enfin, il y a plein d'autres secteurs comme ceux qui bossent dans l'électricité, qui ont des remises sur l'électricité, le mec qui bosse chez Renault, qui a des remises sur les Renault, etc. Donc, puis les vrais privilégiés, il ne faut pas se tromper, hein, c'est ceux qui nous gouvernent et puis ou ceux qui engrangent les dividendes qui sont le fruit de notre travail à nous. Donc si, on défend le service public et quand on discute avec les gens, je sais pas, on doit pas avoir les mêmes personnes lors des micro-trottoirs, et on doit pas tomber sur les mêmes parce que la grande majorité nous soutient et les gens sont pas idiots, ils savent très bien que si les cheminots tombent, si Macron il arrive à accrocher les cheminots à son tableau de chasse, derrière il va dérouler, quoi. Ça va être les hôpitaux, la sécu et puis voilà, le but c'est... Lui, c'est la mondialisation, plus de services publics, voilà, tout le monde est au courant. Enfin, ce qu'on entend dans les médias, les gens sont pas dupes. Il y a deux jours, là, il y avait un graphique, un camembert sur BFM, je sais pas si tu l'as vu.
J'ai arrêté les drogues dures. Hein.
48% de gens mécontents, et c'est bizarre parce que le 48% sur le camembert, c'était supérieur à la moitié du camembert.
On va parler concrètement, puisque tu es un privilégié. Toi, tu as combien d'années de boîte à la SNCF ?
Ça fait 19 ans exactement. Il faut savoir que mon salaire est composé deux tiers de fixes et un tiers, en gros, de primes qui sont variables. Donc, les primes, ce n'est pas les mêmes tous les mois. Suivant si je suis malade, je n'ai pas de primes. Si je suis en vacances, je n'ai pas de primes puisque je ne fais pas de train. Donc, mon salaire, il varie entre 2004 et 2700 euros. Par mois, au bout de 20 ans. Donc ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un, c'est énorme. Sauf que bah, y a les responsabilités, il y a les horaires, voilà, c'est donnant-donnant. Quand on a signé, moi on m'a demandé pourquoi tu veux faire ce boulot, t'aimais bien jouer au petit train quand t'étais petit, non, j'ai jamais eu de petit train, t'aimes bien conduire, non, pas spécialement, mais bon, je suis comme tout le monde, hein. Je regarde en bas de ma fiche de paye à la fin du mois, là je suis rentré dans cette boîte connaissant les inconvénients, j'ai signé pour ça. Maintenant, si on me dit on va te rajouter des inconvénients, mais on va pas te rajouter de salaire, bah là je suis pas trop d'accord, quoi. Parce que des Noëls, des premiers de l'an, des anniversaires des gamins ou quoi que ce soit où j'étais absent, j'en ai passé pas mal, quoi. Donc c'est ça le boulot, quoi.
Dis donc, ils ont fait une erreur, là, je regarde bien ta fiche de paye, mais je la vois pas, la prime de charbon.
Non, la prime de charbon, ça existe plus depuis 1972. Voilà, et moi c'est mon année de naissance, donc je peux pas en parler, j'ai pas connu. Et non, ça existe plus. Et pareil, on entend parler aussi, nos jours de grève seraient payés. Prévenez-moi, parce que si mes jours de grève sont payés, je suis en grève toute l'année. Hein. Je suis con d'aller bosser si mes jours de grève sont payés. Donc non, les jours de grève sont pas payés. Là, l'entreprise a même tendance à nous les retirer avant, elle pouvait étaler sur plusieurs mois. Là, non, elle nous les retire directement le mois de grève terminé. On voit tout de suite ce que ça nous coûte, quoi, la grève. Non, c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. Ça... Et non seulement on perd notre journée de boulot, mais en plus, la direction nous pique des jours de repos. Et tous ces jours de grève, bah, c'est des jours qu'il faudra qu'on récupère à la fin de notre carrière, comme si on n'avait pas bossé, donc ça compte pas pour la retraite, quoi. Double, voire triple peine, hein, les jours de grève.
On a fait quelques-uns déjà, des jours de grève.
Ah oui, depuis 2018. Bah, je les ai tous faits, là, déjà. Toutes les périodes qui ont été décidées par la CGT, l'UNSA et la CFDT, puisqu'on a dit qu'on restait dans l'intersyndical, voilà, on restait unis, ce qui est important pour nous par rapport aux cheminots et puis par rapport à la communication dans les médias, parce que dès qu'il y a un syndicat qui va commencer à vouloir se barrer, ils vont pas nous rater, ça on le sait. Par contre, on n'était pas trop d'accord sur ces modalités, même si ça a bien fonctionné au début, ça a bien déstabilisé l'entreprise. On pense qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose et on est en cours de discussion pour voir, bon là, peut-être pas maintenant parce que c'est la période des vacances scolaires, mais au retour vers la mi-mai, à commencer à durcir le mouvement parce qu'en face, on sait qu'ils sont déterminés et à nous de leur montrer qu'on lâchera rien, quoi.
Alors tu nous disais, toi, hein, au bout de 20 ans de boîte, 2400 balles net, brut ?
Net.
Un jour de grève, ça te coûte combien ? En gros, 100 balles par jour, non ? Un truc comme ça ?
Ouais, c'est à peu près ça, c'est 80-90 euros. Ouais. 90 euros par jour de grève. Ce mois-ci, je dois en être à une dizaine. Voilà ce qui va me manquer sur mon salaire. Plus les repos. Je vais avoir un trou de 1000 euros dans le budget. Après, on se débrouille comme on peut. Soit on prévoit qu'il va y avoir des mouvements sociaux et on essaye de mettre de l'argent de côté, même si c'est de plus en plus dur, comme tout le monde. Ou alors soit, moi ça m'est déjà arrivé, bah, je vais à la banque et je fais un crédit que je rembourse. Et puis je me dis, bon, j'espère qu'il n'y aura pas un autre mouvement trop tôt. Voilà, peu importe. Enfin, ce qu'on perd là, c'est pour ne pas perdre plus tard, quoi. Voilà, c'est pour ça. Nous, on sait que oui, que ça coûte de l'argent, c'est pas toujours facile pour ceux qui ont des familles. Comme le personnel d'Honnête à Paris qui, au mois de novembre, décembre, a fait 45 jours de grève. Là, c'est du personnel de nettoyage des gares. Eux, c'est vraiment des salaires précaires. Eux nous ont donné une leçon, quoi, d'humanité, de combativité. 45 jours de grève, quoi, c'est pour des petits salaires. Et donc, ils se sont organisés. Ils mettaient tout en commun, la bouffe, etc. L'autre allait garder les enfants de machin. Et ils n'ont pas lâché. Et ils ont gagné, voilà, au bout de 45 jours. Alors, si du personnel qui est payé, mais vraiment au ras des pâquerettes, arrive à faire ça, il n'y a pas de raison que nous, cheminots, on ne puisse pas le faire, quoi.
Il y a des caisses de solidarité auxquelles tout le monde peut contribuer.
Oui, alors par Internet, il y a une caisse Litchi. Donc ça a été mis en place par des personnalités publiques. Nous, je sais qu'au niveau de la Fédération Sudrail, on a une caisse aussi au niveau du pot commun. Là, il y a eu une soirée lundi à la mairie de Saint-Pierre. La salle a été prêtée par la mairie. Il y a des groupes de musique qui sont venus gratuitement. Il resterait à se partager 4 000 euros. On discute justement avec les organisateurs de cette soirée, entre syndicats et avec eux, pour voir comment on va redistribuer ça. Enfin, le système, il va être simple, hein. Les gens vont nous emmener leur fiche de paye à la fin du mois, et puis suivant les jours de grève qu'ils auront fait, bah, on va partager comme ça, quoi, le plus équitablement, quoi.
C'est la question qu'on ne pose jamais aux cheminots dans les médias dominants. Pourquoi faites-vous grève ?
Moi, je fais grève pour défendre les services publics en général, et puis au-delà du service public, pour défendre les salariés en général, parce que je suis à Sudrail, mais bon, je tourne avec les copains de Solidaire. Dans les secteurs privés, c'est pire que chez nous, donc on essaie de leur donner les moyens de se battre aussi, quoi. C'est, le syndicat, c'est que ça, c'est qu'un outil. Alors les gens, ça leur fait peur, parce que c'est vrai que dans les médias, nous, on est les méchants, les syndicats, et puis eux, c'est les gentils. Mais l'organisation des salariés, c'est la première marche pour contrer nos patrons, quoi. Enfin, moi, je fais grève parce que je peux faire grève à la SNCF, et je me bats pas pour mon statut, comme tu disais tout à l'heure, ou mon salaire. Je me bats, pour moi, ça reste une lutte des classes, quoi. Je me bats pour tous les salariés, pour tous les précaires, pour tous les chômeurs, pour les sans-papiers aussi. Enfin, voilà, ça reste une lutte des classes, quoi. Je me bats contre ce pouvoir en place qui détruit tout, qui écrase tout sur son passage, qui se fout de la vie humaine, etc. Là, on voit, pareil, nos anciens qui sont maltraités dans les EHPAD. Et là, je jette pas la pierre sur le personnel des EHPAD. Eux, c'est pareil, ils sont en manque cruel de personnel. Il y a pas assez de monde. On nous prend tout le temps l'Allemagne comme exemple. En Allemagne, il y a un employé par retraité dans les EHPAD. En France, on en est très, très, très loin. Donc voilà, c'est pour ça que je me bats, quoi.
Alors qu'on nous cite toujours les Allemands sur tous les tons, parce que ces gens-là, ils sont vertueux, ils sont miraculeux, ils sont formidables. Eux, leur train, ils ne l'ont pas privatisé, hein. Ils ont décidé, les Allemands, de garder ce service public du train dans les prérogatives de l'État.
Oui, en 97, l'Allemagne a repris la dette. C'est une dette d'État. On parle souvent de la dette de la SNCF, mais non, la SNCF, c'est l'État. Donc c'est une dette d'État, ce que n'a pas fait la France. La France, à cette époque-là, elle a séparé le réseau, c'est-à-dire les rails, de l'exploitation des rails, c'est-à-dire des trains. Elle a masqué, entre guillemets, la dette dans le réseau. Alors l'entité s'appelait Réseau Ferré de France, hein, RFF, pour coller aux critères de Maastricht. Et de ce fait, rester dans la fameuse barre des 3% de déficit, sinon elle allait avoir des sanctions, la France. Donc elle a masqué cette dette dans RFF. Et aujourd'hui, alors on entend un Macron qui nous dit « Oui, bon, bah, la dette, si, on verra, on la reprendra à la fin du mandat, machin. » Enfin, moi, je sais pas, mais j'ai tendance à jamais croire les politiques, quoi. C'est...
Puisque les cheminots, c'est tellement des privilégiés que ça, bah, vous avez qu'à passer le concours. C'est facile de rentrer dans la boîte ?
Alors, c'est pas si facile d'y rentrer. On a de plus en plus de mal à trouver du monde. Je sais que l'an dernier, il y a eu un stage de 12 conducteurs, par exemple. Il n'y en a aucun qui a été jusqu'au bout. Bah, les gens se rendent compte de ce que c'est qu'un peu le métier, quoi. On n'a pas du tout de rythme. Les roulants, que ce soit les contrôleurs ou les conducteurs, même dans certains autres métiers, on n'a pas du tout de rythme. On a une grille qui est faite sur 6 mois pour ceux qui sont en roulement. Sinon, c'est toutes les semaines pour ceux qui sont ce qu'on appelle en service facultatif, en réserve. C'est pire que les 3-8. Dans la même semaine, on peut faire des journées de matinée, des journées de soirée, des journées d'après-midi, quoi. Ça bousille quand même pas mal le physique, quoi. D'où peut-être l'âge de départ un peu plus tôt à la retraite. Même si, oui, il y a des métiers difficiles, sapeurs-pompiers, maçons, couvreurs. Il y a plein d'autres métiers qui mériteraient de partir à la retraite beaucoup plus tôt. Ce que je dis aux gens, au lieu de dire, voilà, on va tirer tout le monde vers le bas, si on essayait de commencer par tirer tout le monde vers le haut, peut-être que ça irait mieux, quoi.
Puis il y a une pression aussi de la responsabilité. Enfin, je veux dire, entre tes mains, dans ta cabine, il y a la vie des passagers derrière.
Il y a ça, et puis on est de plus en plus responsabilisés. Maintenant, on nous fait signer tout un tas de papiers, et puis notre encadrement se décharge là-dessus en nous disant « Bon, bah voilà, là, t'étais au courant, t'as signé. » Il y a un exemple tout bête, il y a quelques années, c'était à Trappe, un conducteur de train dans un train où il était seul, donc sans contrôleur, hein, c'est ce qui se fait maintenant sur la région, ils suppriment les contrôleurs dans les trains, qui a traîné un monsieur sur 300 mètres avec son train, parce que les caméras se sont éteintes au moment où il est parti, et le monsieur est arrivé à ce moment-là, il est resté coincé dans la porte, et il en est décédé. La procédure a duré 5 ans, et le conducteur de train s'est retrouvé dans le box des accusés. Alors, la SNCF s'est défendue en disant « Non, non, mais il était que témoin assisté. » Mais en attendant, elle n'a rien fait pour lui. Et pendant 5 ans, le mec, il bossait pas. Et il avait un mort sur la conscience. Et c'était lui qui se retrouvait face à la justice. Il a été innocenté, et heureusement, puisqu'il n'a fait que son boulot. Mais il a fallu qu'il se batte pendant 5 ans, quoi. Et puis, les conséquences psychologiques là-dessus, quoi. Donc voilà quoi, oui, on a des responsabilités, oui, face à la justice, le routier pareil, que ce soit transport de marchandises ou transport de voyageurs, chez nous, oui, on a des responsabilités.
Donc si vous pensez que cheminot c'est un chouette métier de privilégié, mais allez-y, hein, la SNCF n'attend que vous.
Ils en recherchent, hein, des conducteurs. Nous, depuis des années, là, on demande, parce qu'on savait avec les générations qui allaient partir à la retraite qu'on allait être en sous-effectif. Et comme d'habitude, la direction a fait des formations, mais au dernier moment. Et là, elle nous dit, bah oui, vous comprenez, il y a personne qui veut faire conducteur. Donc, si le métier était vraiment si attrayant, si super, il y aurait beaucoup plus de candidats, je pense.
J'arrive à Paris, à l'aéroport. Je prends le train. C'est pas possible. Pourquoi? J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le bus. Oh non, c'est pas possible. Pourquoi? Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève? Hey! Petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, que penses-tu à moi? Besoin de toi. I love you, petit cheminot, I need you, petit cheminot, ne me laisse pas, chante avec moi.
Vous êtes toujours avec Dom, Dominique Thébault, Sud Rail. On va partir peut-être de cette date de 1936, gouvernement de Front Populaire. Jusque-là, c'était des compagnies privées qui géraient des petits bouts de voie. Et puis comme ça marchait pas, que c'était déficitaire, en 1936, le gouvernement de Front Populaire décide de nationaliser ces compagnies, de les regrouper et de faire un seul et unique réseau, donc qui va s'appeler la SNCF, hein, la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Et fournir aux usagers un outil de service public. Et puis, on voit depuis quelques années, là, mais c'est pareil à la Poste, c'est pareil dans tous les services publics, en fait, on nous a habitués à ne plus être des usagers d'un service public, mais des clients d'une prestation.
C'est général, en fait, on voit qu'ils détricotent tout ce qui est sorti du Conseil national de la Résistance au sortir de la guerre. La SNCF... a contribué à la reconstruction justement de tout ce qui avait été détruit pendant la guerre. Comme quoi, on n'est pas que des méchants cheminots qu'embêtons les gens. On sait que ça embête les gens de faire grève, mais on n'a pas d'autre moyen de se faire entendre, quoi. Sinon, oui, pour en revenir à l'histoire, enfin, ça a été fait justement parce que ces entreprises privées qui existaient avant n'étaient pas rentables. Fallait tout le temps les renflouer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les pays qui ont des boîtes privées, hein, comme en Angleterre. Bon, en Angleterre, c'est l'exemple de la privatisation. Il y a d'ailleurs 3 Anglais sur 4 qui veulent en revenir de la privatisation, qui veulent que l'État renationalise les chemins de fer, parce que au final, le contribuable paye, renfloue, mais des boîtes privées, quoi. Et donc, on ne sait pas trop où va l'argent, si vraiment les travaux d'infrastructure sont faits, etc. Et là, ce que veut faire Macron et sa bande de voleurs, c'est privatiser la SNCF, garder les lignes les plus rentables, et puis les petites lignes TER, ça sera les régions qui devront gérer, en plus de ce qu'elles gèrent aujourd'hui, elles devront gérer le réseau, donc les lignes de chemin de fer, quand il y aura des partages à faire, on sait très bien qu'ils choisiront pas le ferroviaire, quoi, parce que ça coûte trop cher d'entretenir les voies. Donc ces petites lignes, au final, disparaîtront. Voilà.
L'exemple anglais est tout à fait emblématique, hein. C'est sous le règne de Margaret Thatcher, l'ultra-libérale, donc, qui arrive au pouvoir en Angleterre dans les années 70. Là, ils privatisent le train, c'est une catastrophe. Les actionnaires, évidemment, le but du jeu pour eux, c'est de tirer un maximum de fric de leur investissement, et évidemment, pas d'argent investi dans la sécurité, dans les infrastructures, etc. Donc tant et si bien que quand les Anglais prenaient le train, bah, ils avaient toutes les chances de mourir, hein. Il y a eu des accidents dramatiques.
70 morts en Angleterre depuis la privatisation. Bon, nous, on a eu Bretigny, et là, pareil, c'est un manque d'entretien.
Ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Le 13 juillet 2013, il me semble. Donc là, pareil, c'est un manque d'entretien. Nous, on y, les conducteurs de train de Saint-Pierre-des-Corps, on y passe à Bretigny et on signalait le problème. On leur disait, c'est bizarre, ça se coud quand même pas mal. Nos chefs nous disaient, bah, soit tu fais le grand jeu, c'est-à-dire on applique la procédure qu'on appelle choc anormal. Donc là, on arrête toutes les circulations et on va visiter la voie. On se rend compte du problème. Il y en a certains qui l'ont fait. Ils se sont fait remonter les bretelles parce que Bretigny, c'est un nœud ferroviaire. Il y a un train toutes les deux minutes qui passe là-bas. Quand on fait ça, il faut être sûr de son coup. Et souvent, bah oui, les conducteurs qui ont juste appliqué leur règlement se sont pris des sanctions à la suite de ça. Donc finalement, on avait pris l'habitude de rouler plus doucement que la vitesse maximale. Et d'ailleurs, le train qui a déraillé, où il y a eu 7 morts, il a déraillé à 137 km/h, alors que la voie, on pouvait rouler à 150. S'il était resté à la vitesse maxi, c'était pas 7 morts qu'on aurait eu, c'est beaucoup plus, quoi. Donc ça, pareil, c'est un défaut d'entretien. La sous-traitance, c'est plus la SNCF qui fait l'entretien. Il n'y a plus de gens qui surveillent pour voir s'il y a des trains qui arrivent, les annonceurs, ceux qu'on appelle les annonceurs, les entreprises privées, les sous-traitantes. Je dis pas qu'elles font mal leur boulot, mais le personnel est moins sensibilisé aux risques ferroviaires. Nous, la sécurité, c'est le maître mot. On fait passer la sécurité en premier et le reste, voilà, ça vient après. D'ailleurs, entre parenthèses, le statut permet ça. Mon statut permet de dire, si ça va pas, de dire à mon chef, bah écoute, moi je fais pas le train. Je défie quiconque dans les boîtes privées de faire ça à son patron. Le mec, il est à la porte dans les deux minutes, quoi. Donc voilà ce que ça permet, le statut. On a de moins en moins de moyens et puis on se rend compte que la stratégie de ceux qui veulent détruire le service public est toujours la même. On détériore le service public comme on a fait à la Poste. Bah là en ce moment c'est EDF là avec Areva et sa patronne qui a détourné je sais pas combien. Donc on détériore et puis après on dit bah vous voyez ça marche pas. Et on essaie de faire croire aux gens qu'en passant dans le privé, tout va être merveilleux, le train sera moins cher. Alors bon, on voit bien que l'électricité n'est pas moins chère depuis que c'est passé au privé. La Poste, ils sont pas encore privés, mais ils sont en bonne voie. Et c'est à chaque fois le même schéma. Donc voilà, on détériore le service, on commence à passer l'entreprise en société anonyme. Donc là, on nous a dit, mais vous inquiétez pas, les parts seront indivisibles. Sauf que ça a été refusé. L'amendement, il a été refusé à l'Assemblée nationale. La future société anonyme SNCF qu'ils veulent mettre en place, qu'on va tout faire pour contrecarrer, il n'y a aucune garantie dessus. Ils peuvent augmenter le capital, vendre la SNCF au privé. Enfin, nous, on sait ce que ça fera. Hein, le privé, il n'est pas là pour faire de la sécurité, il est là pour faire du pognon. La sécurité, ça passe après. Un service public, on parle pas d'argent, quoi. Service public, l'école est gratuite, c'est un service public. L'hôpital est gratuit, c'est un service public. On n'a pas à parler d'argent. C'est payé par nos impôts, enfin ce qu'il en reste de ce qui nous pique pas pour s'en mettre dans les poches, hein, comme les Cahuzac et compagnie. Mais voilà, quoi. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui ont rien. Ceux qui nous gouvernent ou les financiers s'en foutent du service public, quoique les boîtes qui investissent en France viennent investir en France massivement parce que le réseau ferroviaire est bon, parce que le réseau routier est bon, toutes ces infrastructures publiques...
Donc payées par le contribuable.
Voilà, payées par le contribuable, ça les intéresse. Par contre, le service public, bien sûr, qui profite aux plus précaires et heureusement... C'est la société dans laquelle on veut voir grandir nos enfants, quoi. On n'a pas envie d'un monde de requins comme ce qui est en train de se jouer en ce moment, quoi, au niveau de la planète.
au-delà du fait que ce qui reste encore un service public, enfin bon, les débris de ce qui reste du service public, hein, parce que la SNCF s'arrange bien aussi pour se saboter elle-même, donc l'État s'arrange bien pour saboter lui-même hein, cet outil. Regardez par exemple cette compagnie de bus que la SNCF a montée pour faire concurrence à ses propres trains, deux branches d'une même boîte qui se font concurrence. C'est formidable. Donc on a bien compris que comme l'éducation, comme la santé, comme le marché des retraites, tu vois, j'ai dit le gros mot, marché, le service public du transport, bah, tout ça c'est des gâteaux sur lesquels le capital ne pouvait pas mettre les mains jusqu'à présent. Mais j'ai aussi l'impression que vous, les cheminots, en tout cas dans l'imaginaire et puis dans les faits aussi, vous êtes le dernier noyau dur ouvrier qu'il y a en France. Et j'ai envie de continuer à faire un parallèle avec l'Angleterre. Finalement, si la mère Thatcher, dans les années 70-80, a fait fermer les mines, c'était pas tant parce que le nucléaire, c'était formidable, c'était surtout que fermer les mines, c'était priver les syndicalistes de leur emploi et donc de les castrer, quoi, de les réduire au silence. Donc on ferme les mines, on abandonne le charbon, on passe au nucléaire et on fout sur le carreau bah, tous ces gens qui gigotent un peu à faire du syndicalisme et qui nous emmerdent avec leurs grèves, leurs manifs et leurs demandes d'augmentation de salaire. Tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'au-delà du gâteau qui fait saliver quelques-uns, il y a aussi la volonté de décapiter toute velléité de manifestation, de protestation. Là. Si jamais ils arrivent à décapiter les cheminots, ça veut dire que derrière, ce sera l'alali, quoi. Ils vont défoncer l'hôpital, ils vont défoncer les profs, ils vont défoncer tout le monde. Est-ce que je me fais une parano, là ou
Non, c'est exactement ça. On voit que Macron, bah, il est dans cette lignée. Hein. Là, il envoie les flics, après avoir envoyé quelques milices fascistes dans les facs pour déloger les étudiants. À Notre-Dame-des-Landes, malgré le fait que l'aéroport ne se construise pas, il veut pas d'un autre modèle de société, c'est ça qui les dérange, quoi. Il y aurait un modèle unique qui est le leur, et le reste n'a pas le droit à la parole. C'est un déferlement de violence qui s'abat contre nous. Aucune discussion. Là, on le voit même au niveau de la SNCF, il n'y a pas de négociation possible. Là, il y a Édouard Philippe qui revient timidement parce qu'il se dit « Ah ouais, peut-être qu'on y va un peu fort », mais non, il reçoit les syndicats en bilatéral, chaque syndicat les uns après les autres, pour essayer de diviser. Hein. Diviser pour mieux régner, c'est tout le temps la même stratégie. Et donc, c'est ça. Alors, il n'y a plus de grosses industries en France où il y avait des gros bastions salariés. On a vu Imetal, tout ça, voilà, ils se sont fait dézinguer hein, avec les promesses des candidats à la présidence à l'époque. Oui, je reviendrai. Et c'est vrai que la SNCF, bon, on est à un peu moins de 150 000 cheminots en France. On a quand même encore pas mal de gens syndiqués, donc un gros pouvoir de blocage. Et oui, s'il accroche les cheminots à son tableau de chasse, Macron, il n'y aura plus grand-chose derrière, je pense, quoi. J'ai bien peur. Alors, je dis pas, voilà, c'est pas pour gonfler les bras ou quoi que ce soit, mais je pense que tout le monde en est conscient, et c'est pour ça qu'on entend beaucoup de gens nous soutenir, nous dire « lâchez pas, même si nous, ça nous embête, on comprend, et lâchez pas, on est derrière vous ». Voilà, donc ça fait plaisir que les gens en prennent conscience. Tout serait bouclé, parce que l'Assemblée voilà, a décidé, voilà, on passe tout par ordonnance. Et maintenant, le gouvernement a dit, écoutez, maintenant, ça se décidera avec vos dirigeants de la SNCF. Nous, on a fait notre part de la destruction. Maintenant, vous verrez le reste. S'il y a des trucs à négocier, vous verrez ça avec vos dirigeants. On n'est pas du tout d'accord. On a refusé d'aller à l'entretien avec la ministre du Travail. Elle nous a dit « Ah bah quand même, je voulais vous parler du fret, de relancer le fret ». Alors ça c'est pareil, c'est une grosse blague. On a supprimé enfin les portiques, l'écotaxe. Bizarrement, l'État a cédé sous la pression de… Alors les bonnets rouges, c'était quoi? C'était des petits patrons, non du transport routier qui est subventionné, parce qu'il est subventionné. Le transport routier, il paye pas les routes, hein, puis il paye pas l'écotaxe, qui aurait pu aider à financer le fret. Donc c'est une grosse blague, quoi. Le fret, ils sont en train de dire qu'ils veulent tout liquider le fret… public, ferroviaire, ils ont bien commencé. En 15 ans, la part du fret a diminué de moitié. Fret tout compris hein, en 15 ans, parce que là, maintenant, il y a des boîtes privées qui n'arrivent même pas à faire de fric, hein, qui sont déficitaires. Il y en a même qui coulent, parce que, bah oui, c'est compliqué de faire du chemin de fer et que ce soit rentable. On le sait bien, l'entretien des voies, ça coûte cher, mais voilà, c'est un choix de société aussi.
En fait, il faut peut-être marteler ce truc-là. C'est illusoire de s'imaginer qu'on va faire du fric avec du train. Comme si on disait à un hôpital de faire du fric, ou comme si on récompensait les profs en fonction du nombre d'élèves qui ont réussi le bac. Enfin, c'est complètement absurde comme logique. Le train, c'est pas fait pour faire du fric, c'est fait pour rendre service au public.
Exactement, c'est le train, c'est le maillage du territoire, c'est le service public, c'est donner les mêmes chances à tout le monde. C'est-à-dire que la pauvre personne qui habite au fin fond de la Creuse, elle ait la même possibilité que celui qui habite en banlieue parisienne de se déplacer en transport en commun. Alors tout ça, on nous dit oui, si ça va continuer, oui, mais ça sera quoi comme transport? Ça sera les bus Macron là, qui sont subventionnés aussi. Hein, sinon, s'ils l'étaient pas, ça coulerait. D'ailleurs, il y a des boîtes qui ont déjà coulé. C'est la politique qui est mise en place pour détruire tout ce service public. Alors on veut plus de mobilité pour les travailleurs et en même temps, on leur supprime les moyens de se déplacer. Donc là aussi, il y a une logique que j'ai du mal à comprendre, mais bon, parce que moi je suis un peu bête. Hein, les conducteurs, on nous appelle les pousse-manettes, nous, tu vois, on accélère, on freine, hein, c'est tout. On sait pas le reste, on est un peu idiots, on n'arrive pas à comprendre. L'autre jour, lors de la rencontre avec...
C'est à ça que ça sert le volant dans les cabines? Moi je croyais que c'était pour bien suivre les rails.
Ouais, voilà, c'est l'accélérateur, ça. Donc, comme je disais... Au député La République En Marche, là, quand il nous a reçus, et on était un représentant de chaque syndicat autour de sa table, là, dans son bureau doré, et il nous a dit non, mais le projet ferroviaire, faut le voir dans son ensemble, voilà, c'est un projet global qui a été réfléchi en toute intelligence. Alors là, je l'ai regardé, je lui ai dit, parce qu'en plus, vous nous prenez pour des cons. Enfin, ces gens-là, je dis pas qu'ils connaissent pas le chemin de fer, puisqu'ils prennent régulièrement le train gratuitement. Alors que ce sont pas des cheminots, c'est bizarre. Mais bon, j'ai tendance à penser que ceux qui y bossent sont plus à même de dire ce qu'il en est du chemin de fer, quoi. J'arrive à Paris, place de l'Opéra. J'ai pas le taxi. Ah non, c'est pas possible. J'arrive à Paris, place de l'Opéra. J'ai pas le taxi. Non, c'est pas possible, y'en a plus. Tout le monde me dit, oh j'ai tué sur la grève. Encore la grève. Hey, petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, pense à moi. Besoin de toi. Hey, petit cheminot, I love you. Petit cheminot, I need you. Petit cheminot, ne me laisse pas. Chante avec moi.
Avec Dom, représentant Sudrail, on parle de ce mouvement social, de cette grève. Alors, là, il y a, comment on dit, une intersyndicale, c'est-à-dire que tous les syndicats sont pour le moment main dans la main. Bon, évidemment, il y a toujours le risque que le syndicat qui sert à signer n'importe quoi avec les patrons et à tout faire capoter, vous aurez reconnu la CFDT, bien sûr. Même eux, ils sont sur le pont avec vous main dans la main pour le moment?
Oui, pour l'instant, voilà, ils sont dans l'intersyndicale. Eux, je pense que ce qui les gêne, c'est que jusqu'à présent, c'était les interlocuteurs privilégiés, les collaborateurs, partenaires sociaux privilégiés du gouvernement.
En langage cru et ouvrier, on appelle ça des jaunes.
Voilà, hein, des jaunes, des traîtres. On les appelle comme on veut, ou on les appelle pas. Et en fait, là, Macron, il a pas voulu d'eux. Hein. Macron, non, il a dit, non, mais moi, je m'en fous. Alors là, le berger et ses moutons, là, ça les a mis en colère. Donc, nous, ça nous fait plaisir qu'ils soient avec nous dans l'intersyndicale. Et apparemment, bon, on sait pas ce qui va ressortir. Là, on est reçu le 7 par le premier sinistre. Donc, on sait pas ce qui va en ressortir. Vu qu'on est reçu chacun notre tour, peut-être qu'il va promettre, parce que la CFDT, oui, ils ont l'habitude de négocier la couleur, le poids des chaînes. On sait pas de quelle couleur il va leur promettre, si ça sera des chaînes dorées, argentées. On attend de voir. Puis, on sait très bien que, ce que cherche la CFDT, c'est la sortie de crise, comme ils disent. C'est à nous de rester vigilants, les cheminots, et puis de leur faire comprendre que nous, on s'en fout de telle ou telle négociation. Que ce qu'on veut, nous, c'est le retrait pur et simple de ce projet, quoi. Voilà.
J'étais assez surpris lors de manifs précédentes en discutant avec certains de tes collègues qui étaient en manif. Et quand je leur demandais s'ils étaient syndiqués, certains disaient non, non.
Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de collègues qui ne sont pas syndiqués, qui sont dans les manifs avec nous. Et ça fait super plaisir, quoi. Ce qui prouve que le fait de rester unis, quoi, pour les syndicats, bah, ça porte ses fruits, quoi. On se fait entendre. Enfin, moi, pendant 10 ans, je n'étais pas syndiqué à la SNCF parce que je me rendais compte que les syndicats, au lieu de défendre les salariés, ils avaient plus tendance à se tirer dans les pattes. Voilà, je lisais les tracts et je me disais, bah merde, en fait, c'est une guerre syndicale. C'est pas une guerre de l'ouvrier face au patron, c'est une guerre... Là, c'était vraiment une guerre intersyndicale. Donc, les cheminots qui sont pas syndiqués, je pense qu'ils sont dans... Là, ils voient que tous les syndicats sont ensemble, donc ils se disent, là, il y a quelque chose de grave qui se passe. Et oui, ils sont à l'écoute et ils sont vraiment motivés, déterminés à pas se laisser faire autant que les syndiqués, quoi. Moi, il y a un truc qui me tient à cœur. Là, il y a la nouvelle loi sur l'asile des réfugiés qui vient de passer, où on va enfermer encore plus de familles, plus de gamins dans des centres de rétention avant de les renvoyer chez eux. C'est que des calculs comptables. On se fout du côté humain. C'est vraiment le symbole de ce capitalisme qui détruit tout, qui ravage tout sur la planète, qui crée de la misère, qui crée des guerres. C'est contre ça qu'on lutte, quoi. Faut jamais se résigner. Faut toujours se rappeler que quand il y a eu des gros mouvements sociaux, c'est jamais parti d'une majorité de gens. C'est toujours une minorité de personnes déterminées qui a réussi à faire basculer l'opinion publique de son côté et entraîner les gens à ouvrir les yeux pour que les gens se révoltent ou expriment leur mécontentement. Il faut le faire maintenant parce qu'après, je pense que ça va devenir très très difficile. On voit la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe. Nos anciens qui ont connu ça disparaissent petit à petit. Je vois même à l'école, on voulait supprimer dans certaines filières, on voulait supprimer les cours d'histoire. Alors que faut se rappeler de tout ça. Hein. Hitler, il n'a pas pris le pouvoir comme ça. Hein. Hitler, il a été élu. Enfin, j'ai l'impression que si on continue comme ça, enfin, on y court vraiment, quoi. Le terreau du fascisme, du nazisme, ça a tout le temps été la précarité, la misère. Ce système capitaliste, il nous y conduit tout droit, quoi. Et c'est pour ça que je dis aux cheminots en premier, puisque c'est là où je bosse, de rien lâcher. Parce que si on lâche là, ce qui risque de se dérouler risque d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave qu'une réforme de la SNCF, de l'hôpital ou de la Sécu, quoi. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Il y a 50 ans, il y a nos anciens qui nous ont montré l'exemple, hein. Ça a quand même un peu fait bouger la société en 68, hein, en mai 68.
Alors, on parle pas des gesticulations folkloriques du boulevard Saint-Germain et, et des cohn-benditeries nostalgiques. Ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'en ce printemps 68, il y a eu des grèves générales partout. Après, c'est le folklore estudiantin du boulevard Saint-Michel qui a rattrapé tout ça, mais bon, pour occulter que 68, c'était un mouvement ouvrier.
Il faut se rappeler que c'est parti quand même d'un mouvement étudiant à la base. Hein.
C'est pas mal parti aussi des chantiers navals de Nantes. Hein.
Puis, il y avait aussi tous les mouvements féministes qui étaient là, parce qu'on y est encore, hein, dans une société patriarcale. Hein, quand on voit la tête des dirigeants d'entreprise, il y a très peu de femmes. L'égalité homme-femme, c'est que sur le papier, hein, même à la SNCF. Hein, l'égalité salariale, ça n'existe pas. Il y a eu tout ça. Aujourd'hui, en 2018, il y a les traités de libre-échange qui donnent de plus en plus de pouvoir aux multinationales face aux États. Il faut se rappeler que l'État, c'est les peuples, hein, c'est les populations. Si on laisse les Google et autres Facebook, machin, bouffer les États, la société qu'on aura demain, ça va pas être très joli, quoi.
En tout cas, ça fait plaisir à entendre ce discours et puis mettre au clair que non, les cheminots ne sont pas des privilégiés qui se battent pour leurs petits privilèges, mais qui se battent pour tout le monde. J'en profite pour exprimer par ta personne toute la gratitude que j'ai vis-à-vis des cheminots qui sont là pour défendre tout le monde. Voilà, merci Dom, merci les cheminots.
Merci à toi JB, ouais, ça fait plaisir d'entendre ça, je te remercie.
À très bientôt, on se retrouve sur le pavé.
Ouais, bah comme d'habitude, ouais.
Salut.
Salut.
La suite de cette spéciale grève à la SNCF, c'est avec notre ami Cédric, prof d'histoire géo, pour vous parler de cet article paru dans Le Monde diplomatique d'avril 2018. Il paraît que les petites lignes de chemin de fer coûtent trop cher.
Je veux un poste, pas possible. Je veux un postal, pas possible. Je veux fonctionnaire, pas possible. Je veux l'infirmière, pas possible. Je veux camionneur, pas possible. Je veux professeur,
pas possible.
Je veux les grisiers,
pas possible.
Je veux les putes,
ça c'est possible. La 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 la.
Cheminot, la chanson du dimanche. Salut Cédric.
Salut.
Dans Le Monde diplomatique, avril 2018, cet article de Benoît Duteurtre. Il paraît que les petites lignes de chemin de fer coûtent trop cher. Opposer usagers et salariés des chemins de fer n'a guère de sens quand tous vivent la dégradation du service au nom d'un désengagement public que le gouvernement veut renforcer. Et que penser des proclamations sur la sauvegarde du climat quand on torpille le rail en faveur de la route ?
On va du côté de Nancy, on va faire une jolie traversée entre Nancy et Saint-Dié. Et ce témoignage de cet auteur, justement, se veut à hauteur d'homme. Part d'abord d'une description toute simple, hein, celle des trains poubelles, hein, ces vieux wagons qu'on a réutilisés, hein, parfois des anciennes rames de RER raccommodées. Alors il dit certes, ça a un peu tendance à disparaître et on a mis de nouvelles rames bombardiers qui sont certes plus confortables, mais il arrive de temps en temps qu'on ait un beau train poubelle parce que les bombardiers sont en réparation. Il évoque également la suppression des trains pendant les temps creux de la journée ou pendant les temps creux de l'année, notamment les vacances scolaires. Et il montre comment ces trains sont progressivement remplacés par des bus lents que vénère M. Macron. Il parle également de la baisse du nombre de contrôleurs qui effectivement laissent seuls les usagers du train face à un éventuel problème ou une éventuelle agression, car les contrôleurs ne sont pas là que pour vérifier les billets, mais aussi pour assurer la sécurité des passagers. Il raconte enfin comment les correspondances sont de plus en plus aléatoires avec le réseau de TGV. Certes, ce début de papier était sympathique, mais vous allez voir qu'on va monter en gamme. Effectivement, il montre comment la primauté des investissements sur le TGV conduisent à une dégradation du service, alors qu'il varie de nom au fur et à mesure des années. On passe de Corail à Intercité, au TER, toute une série de noms clinquants inventés par des publicitaires gavés d'argent et qui conduit aux baisses d'investissement de la part de SNCF pour des choses un peu plus utiles que de changer de nom. Effectivement, ça cache mal cette floraison de noms, le déclin des dessertes transversales qui, tout compte fait, conduit à un réseau ferré qui n'aurait pour mission que de relier les grandes métropoles. Alors, contradiction évidente, quid de la décentralisation et des dysfonctionnements croissants des grandes métropoles que tout à chacun peut observer, à savoir que l'engorgement de ces grandes villes provoque une hausse des loyers, une hausse de la pollution, une hausse des pertes de temps et d'argent de la population prise dans des embouteillages toujours croissants, et on pense notamment aux classes populaires obligées de s'exiler dans des banlieues de plus en plus lointaines, en première, deuxième, troisième, parfois quatrième périphérie, et effectivement, devant le manque de transports publics, sont obligées de prendre leur voiture et d'aller engorger les centres-villes. C'est donc dans ces contradictions qu'apparaît le rapport de Jean-Cyril Spinetta. Et Jean-Cyril Spinetta, qu'est-ce qu'il dit ? Mon Dieu, le train coûte cher, notamment ces petites lignes affreuses qui ont tous les vices du monde. Et donc, on va taper dedans, quoi. On va les éliminer parce que c'est atroce. Alors, là aussi, l'auteur met en avant les contradictions. Quid du développement durable ? Gauche, droite, se gargarisent au pouvoir d'accords de Grenelle, de COP21, d'écomobilité. Hein, quelle municipalité ne développe pas ces principes d'écomobilité afin de remplacer l'automobilité ? Et bien sûr, le point central a été l'arrivée de Nicolas Hulot comme ministre, sympathique présentateur d'Ushuaïa avec son hélicoptère se baladant aux quatre coins du monde. Mais je rappellerai un autre élément de Nicolas Hulot. Alors, je sais que personne ne l'a vu, mais il avait fait un film qui s'appelle Le syndrome du Titanic et dans lequel il présentait avec une vraie force de conviction toute une série de problèmes écologiques et sociaux, montrant que la véritable écologie, n'était pas que éteindre sa lumière quand on partait d'une pièce, mais posait de vraies questions, et ce film questionnait. Il posait des interrogations et ne se contentait pas d'un développement durable un peu gnangnan, comme on peut le voir. Sauf que là, effectivement, Nicolas Hulot, qui était censé annoncer la couleur verte du nouveau gouvernement, semble bien peu actif, en tout cas pris dans des contradictions de pouvoir qui le marginalisent totalement.
Je veux bien que tourne en boucle sur Internet des contre-vérités. C'est la
voix off
et une polémique
qui sont pas drôles.
Trucage.
Trop grave. Nicolo, pardon,
candidat à l'élection présidentielle. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que cette fois-ci vous y allez?
Comment dire? Alors, voilà. Hulot découvre tout seul qu'il y a des riches et des pauvres. Il y a des riches de plus en plus pauvres, des pauvres de plus en plus riches.
Vous quittez TF1?
Non, alors, pas du tout. Je suis trop grave.
Et que faites-vous? Des royalties sur les produits dérivés de la marque Ushuaïa? Où va cet argent?
À moi, c'est pour moi, combien ceci, combien cela.
Par quoi remplacerez-vous l'énergie nucléaire?
Eh bien, il faut péter. Regardez à la fois la RAF, je le dis très clairement, il faut péter. Cela pourrait avoir un effet induit sur nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, j'ai des gaz nauséabonds. Donc, j'ai pété hors sol, tout seul. Ça pue. Très sincèrement, je l'ai senti parce que ça se sent. Pardon, en tout cas, je ne vais pas contribuer à l'enflammer.
La voix off.
Et une polémique.
C'est un montage.
Nauséabond.
Tous ces gouvernements, et notamment le dernier, voilà, tout compte fait, vont à contresens de leur discours. Et Jean-Cyril Spinetta est le dernier clou du cercueil.
Alors, c'est qui ce gars-là?
Alors justement, qui est Jean-Cyril Spinetta? Un spécialiste du rail, quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps dans la question, parce qu'on pourrait se demander, à la limite que Guillaume Pépi fasse un rapport sur la SNCF. Quand on a dirigé 20 ans la SNCF, on connaît un peu la chose. Jean-Cyril Spinetta, c'est l'ancien patron d'Air France KLM, quelqu'un qui connaît bien la chose aérienne. Par contre, il n'a aucune référence en matière ferroviaire. Alors, l'auteur, ça le questionne. Est-ce que tout compte fait, le fait d'avoir nommé Jean-Cyril Spinetta, en dehors que ce soit sûrement quelqu'un de brillant, intelligent, n'en point douter, est-ce que ce n'est pas symptomatique, en fait, d'une orientation du rail vers une gestion aérienne? Effectivement, ça ne date pas d'hier. Dans les années 90, alors peut-être que vous vous souvenez, ça a été la mise en place de la billetterie Socrate, qui veut dire « système offrant à la clientèle des réservations d'affaires et de tourisme en Europe ». Alors souvent, on oublie la signification de l'acronyme. Et en fait, ce service était le copier-coller, alors plus exactement, a été racheté à la compagnie American Airlines. C'est exactement le même système de gestion, transféré donc d'une compagnie aérienne privée vers un service public ferroviaire. Alors déjà, ce n'est pas le même métier et c'est surtout pas la même logique. D'un côté, vous avez une compagnie privée soumise à la concurrence dont l'objectif et de faire des bénéfices et de s'inscrire dans un paysage concurrentiel. De l'autre côté, vous avez un service public qui, comme son nom l'indique, n'a pas pour mission de dégager des bénéfices, mais de servir au mieux l'ensemble du public français à égalité, où qu'il soit sur le territoire et quelle que soit sa condition sociale. C'est symptomatique pour l'auteur. Le service public s'aligne sur le modèle marchand, avec notamment ces billets à prix fluctuants qui poussent chacun à aller sur Internet.
Comme des boursicoteurs.
Comme des boursicoteurs, on achète, on compare, on revient, on se précipite, on prévisionne nos voyages. C'est pas une critique envers vous.
Il y a bien tout un truc de société aussi où fut un temps on était usager d'un service public, usager, et on nous a transformé en client.
Voilà.
Et en client boursicoteur.
Oui, parce qu'avant, aux jeunes générations, on leur explique, c'est que quand vous preniez un tour Orléans, c'était facturé au kilomètre, et vous fassiez un tour Orléans, c'est tout plat, où la ligne est ancienne, etc., où vous preniez un nouveau train, effectivement, ou bien un train qui, finalement, circulait dans les montagnes sur des parcours où l'entretien de la voie de chemin de fer coûte plus cher. Forcément, quand vous êtes en montagne, etc., c'est plus cher que quand c'est bien à plat. Eh bien, on payait la même chose, où qu'on soit sur le territoire. Et qu'on prenne son billet pour le lendemain, la semaine prochaine ou dans 3 mois, c'était le même prix. Voilà, on payait au kilomètre.
Il me semble même me rappeler aussi quelque chose, quand, parce qu'on commence à être des vieux, nous, mais moi, quand j'étais petit, hein, dans les années 70-80, quand le train était en retard, c'était exceptionnel. Preuve en est que c'est que je m'en souviens, les fois où c'est arrivé. Bon, évidemment, aujourd'hui, on ne va pas s'amuser à se souvenir de toutes les fois où les TER, maintenant, comme on dit, où les intercités sont en retard, parce que c'est tout le temps.
Alors, le service public 1 s'aligne sur le modèle aérien. Deuxième élément, le service public français s'aligne sur le modèle américain. Effectivement, c'est quoi le modèle qui sous-tend en fait toute la dynamique actuelle ? C'est que, un, la voiture ou le car servent au déplacement de proximité, et l'avion ou le TGV, que l'auteur appelle habilement l'avion sur rail, sert à desservir des distances plus lointaines à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe. Et entre les deux, bah rien, vous vous démerdez, quoi. Et là, l'auteur règle son compte au bus. Hein. Le bus est-il une alternative ? Un, c'est plus polluant. Deux, c'est plus lent. Trois, c'est moins ponctuel. Ça dépend de la circulation. Hein. Le chauffeur de bus, il ne peut pas passer par-dessus un embouteillage. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. Et surtout, c'est moins confortable. Parce que dans un train, vous pouvez vous lever, vous dégourdir les jambes, etc. Dans un bus, c'est beaucoup plus compliqué.
Moi, je rajouterais que c'est plus dangereux aussi. Parce que on voit la tête aussi des chauffeurs de bus qui parfois arrivent de l'Espagne, ont roulé pendant je ne sais pas combien d'heures. Et qui, avec des bâtons d'allumettes pour se garder les yeux ouverts, conduisent leur véhicule avec des passagers derrière. Moi, je trouve que c'est pas très rassurant en tout cas.
Et il y a un contresens économique, enfin, c'est que la SNCF a créé sa propre compagnie de bus, qui s'appelle Ouibus, hein, je ne leur fais pas de pub.
Qui fait concurrence à ses propres trains.
Il fait sa propre concurrence, et malgré ce soutien important, Ouibus est déficitaire. Et donc, qui paye pour Ouibus ? La SNCF. La SNCF paye pour financer un concurrent, Ouibus, qui en fait, lui sabote et lui enlève des clients. Ce qui est quand même assez remarquable. Il y a donc là une contradiction fondamentale entre l'affichage du discours officiel qui dit « oui, maintien du service public, nous faisons des économies » et la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est que nous prenons des mesures ultralibérales en accord avec la volonté des grands patrons et surtout dans un modèle purement américain. Tiens, le modèle américain, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Parce que d'habitude, on se gargarise avec le modèle allemand. C'est la grande mode, hein, tout le monde. En Allemagne, en Allemagne, en Allemagne. Bah, justement, sur la question du train, qu'est-ce qu'on fait en Allemagne ? Que fait la Deutsche Bahn ? Donc la Deutsche Bahn a lancé un grand programme. Un, modernisation du réseau. Car le réseau, là aussi, par manque d'investissement, avait vieilli et rencontrait un peu le même type de problème que l'on avait en France. Donc un, une grande relance des investissements pour la modernisation du réseau. Deux, la fermeture de sa filiale bus. La Deutsche Bahn avait l'équivalent de Ouibus, l'a clôturée, elle ne s'inscrit plus sur ce marché-là, elle laisse faire des acteurs privés, mais elle s'est désengagée de cela. Troisième élément, la relance du fret. Et là, on voit bien qu'un secteur qui a complètement été laissé de côté en France, hein, le fret a été abandonné totalement, le fret ferroviaire, laissant ainsi la part du gâteau aux transporteurs privés routiers, avec tous les problèmes que l'on sait, hein, notamment les problèmes d'accident, parce que, bien sûr, les camionneurs ne sont pas de plus mauvais conducteurs que les autres, sauf que quand ils ont un camion avec 38 tonnes derrière, forcément, quand ils ont un accident, ça fait plus de dégâts que quand vous êtes avec une Twingo, hein, d'accord, hein, forcément, ça embarque avec lui tout un tas de gens. Donc, là, on voit bien, encore une fois, les contradictions d'un Macron qui, effectivement, se présente comme un pragmatique, comme quelqu'un qui n'est ni de gauche ni de droite. Non, c'est un gros patron, au service des gros patrons. Il veut gérer la France comme une entreprise. Et bien, voilà le résultat.
En l'occurrence, c'est de la mauvaise gestion. C'est pas comme ça qu'on fait des bénéfices.
Voilà, c'est de la gestion à courte vue. Et surtout, c'est une vision très idéologique. Macron est un idéologue. On a beau dire ce qu'on veut, ah mon Dieu, etc. Non, c'est un mec qui a une idéologie libéral sur tous les plans et il a décidé de sabater le service public et qui en va en faire les frais en fin de compte ? Eh bien les petits, comme d'habitude.
Cédric, avant-guerre, il n'y avait pas de SNCF, hein, c'était plein de petites compagnies privées qui se tiraient la bourre les unes entre les autres. Évidemment, ça ne marchait pas, elles se faisaient concurrence, ça faisait faillite, il y a des problèmes d'entretien, ce qui fait qu'en 1936, hein, c'est le gouvernement de Front Populaire qui crée la SNCF, donc il y a nationalisation du réseau ferré de France et création d'un service public. On a vu l'exemple anglais où sous Thatcher, hein, dans les années 70-80, on a privatisé le rail, eh ben, ça a fait des actionnaires privés qui n'investissaient pas, qui n'entretenaient pas les voies, etc. Résultat, quand les Anglais prenaient le train, ils avaient de grandes probabilités de mourir dans le train parce qu'il y a eu des accidents ferroviaires épouvantables. Et là, finalement, nous, pays moderne, la France, tout ça, on va faire les mêmes erreurs que ce que Thatcher a fait dans les années 70-80. C'est-à-dire que c'est ça qui est annoncé à l'horizon, hein, par notre cher Macron. C'est privatisation des réseaux. On va remorceler ce qui était un fleuron du transport en France, la SNCF, en petites entreprises privées qui vont se tirer la bourre entre elles. Et bientôt, en France, on va peut-être risquer, comme les Anglais dans les années 70, de crever en prenant le train, quoi.
Effectivement, parce qu'en 1936, est-ce que ce sont des méchants bolcheviques qui ont nationalisé de force, effectivement, cette bonne compagnie de chemin de fer qui était fière de faire leur métier. Non, c'est les compagnies de chemin de fer qui ont demandé à être nationalisées. Ils ont demandé à être nationalisées parce qu'ils se sont aperçus que l'entretien d'un réseau ferré, c'est déficitaire par essence. C'est déficitaire par essence. C'est-à-dire que l'exploitation, faire rouler un train, ça va. Sauf que la dégradation du réseau qui est dessus coûte tellement cher que, effectivement, la seule façon pour une compagnie de gagner de l'argent, c'est de laisser se dégrader le réseau. Ils n'ont pas le choix, c'est mécanique. Aujourd'hui, on dit le transport routier, c'est moins cher que le fret ferroviaire. Oui, c'est parce que le contribuable entretient les routes. Le contribuable entretient le réseau, c'est lui qui paye avec ses impôts, qui paye la route. C'est grâce à ça que les transports routiers sont moins chers. Donc, je pense que le combat que mènent les cheminots en ce moment, c'est pas un combat pour leur statut, au passage. Vous l'avez noté, hein, et même le gouvernement l'a retenu, que ce n'est pas pour leur statut, ce n'est pas pour leurs avantages et leurs soi-disant privilèges. Non. Ils sont en train de se battre pour nous, et c'est pour ça qu'on doit être derrière les cheminots, parce qu'ils sont en train de se battre pour l'esprit du service public, pour que chacun puisse continuer à utiliser ce merveilleux outil qu'est le chemin de fer. Et donc là, on est dans un vrai combat. Et malgré les médias qui, effectivement, montrent des foules affolées parce qu'il n'y a plus de train, etc., et comment on fait. Et
puis les Empire Tana, le reportage de France Intox sur ces pauvres usagers pris en otage par ces bolcheviques feignants, toujours en vacances, et qui touchent des primes de charbon à l'époque du TGV. Vous vous rendez compte, ma bovenum?
Ils ne se battent pas pour ça. Hein. Ils se battent vraiment pour nous. Et effectivement, s'il y a d'autres avantages à les rogner pour faire je ne sais quelle autre économie, on pourrait regarder du côté des journalistes. Journalistes qui enlèvent, je crois, 7000 euros d'impôts sur leur déclaration de revenus, hein, ou les primes de bottes des préfets. Les préfets ont des primes de bottes. Effectivement, les préfets étaient censés au 19e siècle inspecter les égouts et donc n'allaient pas y aller en chaussures et donc devaient y aller en bottes. Et l'État, grand seigneur, leur payait effectivement une indemnité de bottes qui figure toujours dans leur salaire. Donc je ne sais pas si les préfets continuent d'aller dans les égouts, mais en tout cas, ils touchent toujours leur prime de bottes.
Un claquement de bottes, ça a tellement de gueule.
Arceau, ça permet de faire obéir les gens.
Et au-delà de ça, je vais refaire un parallèle avec l'Angleterre. Moi, il m'a semblé comprendre que quand Thatcher a décidé de faire passer le pays au tout nucléaire, c'était pas tant parce que le nucléaire, c'était formidable, etc. C'est que c'était aussi pour décapiter les mineurs. Hein. Il y avait un fort mouvement syndical en Angleterre depuis le 19e siècle, dont le fer de lance, c'était l'industrie. Et donc les mineurs, et finalement, en privant les mineurs de leur emploi, en fermant les mines et en passant au nucléaire, on pouvait décapiter comme ça tout syndicalisme et durablement en Angleterre. Et je me demande si c'est pas aussi ce que nos chers dirigeants essayent de faire. Moi, j'espère que les cheminots vont tenir bon, parce que j'ai l'impression que si jamais le gouvernement arrive à faire la peau aux cheminots, bon, derrière, ça va être la sécurité sociale, ça va être la retraite, ça va être la Lali, quoi. Donc moi, je souhaite de tout cœur que les cheminots tiennent bon. Je me demande si l'un des objectifs plus ou moins affichés du gouvernement, c'est pas finalement de décapiter le dernier bastion ouvrier fer de lance du syndicalisme qu'on a en France, qui sont nos cheminots.
C'est une juste analyse, hein. On est là face effectivement à des gens qui ont encore les moyens de se battre parce qu'ils disposent d'un statut. Ils ont aussi une culture du combat qui fait qu'ils sont aussi les garants de nos intérêts. Et on voit bien comment dans le secteur privé, il est difficile de se battre pour défendre ses intérêts. Et ces gens-là, effectivement, sont aussi des garants pour la sécurité collective du public. Et c'est pour ça que je ne saurais trop vous inviter à participer aux cagnottes pour les cheminots afin de leur permettre de mener ce combat qui, je le rappelle, n'est pas un combat pour des intérêts corporatiste, mais pour l'intérêt collectif.
N'empêche qu'on m'aurait dit, il y a une poignée d'années comme ça, qu'en 2018, on découvrirait le thatchérisme avec Macron 40 ans après les Anglais, ben j'y aurais pas cru.
Et oui, parce que l'échec du thatchérisme est flagrant. Il suffit de voir le point de désindustrialisation dans l'Angleterre, avec une économie totalement financiarisée, qui ne produit plus rien. L'Angleterre ne produit strictement plus rien. Et là, voilà, vous avez l'adaptation soft, moderne, dynamique, mais tout aussi agressive. Il suffit de voir notre ami Macron effectivement se lâcher. Ça ressort de temps en temps, hein, ce mépris de classe. Il essaye de se calmer, on sent le gars qui intériorise le truc. Mais des fois, boum, ça part d'un coup. Que je te traite d'analphabète, et que t'as qu'à t'acheter un costard, et que ceci et ce que cela. C'est du mépris de classe, hein. C'est un mépris de classe profond. Au moins avec la droite et Sarkozy, c'était clair, ça se voyait. C'est pour ça que Fillon a été viré, c'est qu'il a promis que de la sueur et des larmes. Lui, Macron est arrivé comme ça, avec son air de jeune cadre dynamique. Mais derrière, c'est la même sauce, quoi. C'est la même sauce.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette spéciale grève à la SNCF que vous pouvez réécouter sur notre site polemix-et-la-voix-off.com. En attendant qu'on se retrouve très bientôt sur cette même antenne, salut et vive les cheminots et tous les grévistes.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G.
Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
Un champ d'études scientifiques s'est appliqué à montrer que les différences entre femmes et hommes, la virilité et la féminité, sont des constructions sociales. Ce n'est pas la génétique, ce n'est pas la biologie qui peut expliquer le goût.